Allô tout le monde. Ça marche? Ça fonctionne, oui, Monique, c'est vrai. On va pencher nos têtes. Seigneur Dieu, nos yeux sont sur toi. On a soif de ta parole, on a faim de ta parole. On veut entendre ce que tu as à nous dire ce matin. Pas seulement qu'est-ce qui va sortir de ma bouche, mais aussi qu'est-ce que tu vas dire personnellement à chacun par ton Saint-Esprit. Que cette parole puisse fortifier, encourager, qu'elle puisse nous diriger, qu'elle puisse répondre aux questions, Seigneur. Qu'elle puisse même au besoin nous corriger notre manière de penser, puis même modifier le cours de notre vie, Seigneur. Que cette parole soit qu'est-ce qu'on a besoin pour maintenant, le moment présent, puis qu'elle puisse aussi nous préparer pour qu'est-ce qui s'en vient. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes accordé avec moi, avec foi? Amen. Parce que ils vont en être faits selon votre foi. Fait que si vous attendez à pas grand-chose, vous allez avoir pas grand-chose. Vous savez que les enfants, quand ils sont très, très jeunes, on les fait manger. Avec la cuillère, fait l'avion. Mais assez rapidement, ils vont commencer à amener la nourriture eux-mêmes, vont prendre la cuillère eux-mêmes, puis ils vont l'amener à leur bouche. Puis en fait, la foi, c'est comme la cuillère. Quand on s'attend à Dieu, on est en train de prendre la cuillère, puis on amène on s'attend à Dieu, donc la parole, on est en train de la prendre, puis on prend la cuillère, puis on l'amène à notre bouche. Fait que si vous êtes venu un matin, puis dans votre cœur, vous êtes dit, bien, Seigneur, je veux t'entendre un matin. Je veux m'attendre à recevoir qu'est-ce que j'ai besoin. Je suis ouvert à ce que tu me changes. Ça m'a tout pris pour me lever ce matin. Ça a été dur de rapatrier les enfants, les faire venir. J'ai plein d'autres choses à faire, mais je te donne la première place ce matin, puis je m'attends à toi. Mais à ce moment-là, on est en train de prendre la cuillère de la foi, puis on est en train d'amener, puis de recevoir la parole, puis on va recevoir. Puis si vous faites ça, vous allez même peut-être aider quelqu'un à côté de vous à recevoir, qui a plus de difficultés à recevoir. Fait que ça fait un deux pour un en même temps. Fait que je vous encourage à vous attendre à Dieu ce matin, pas à moi. Comme vous savez, en tant qu'assemblée, on est sur le thème de la prière. Ça fait presque 3 mois, j'ai regardé. Pour vrai. Ça fait presque 3 mois. Puis les 2 dernières semaines, Pasteur Joël il a parlé de prier pour avoir le plan de Dieu pour notre vie. Puis qu'est-ce que je trouve encourageant, c'est que même si on n'a jamais recherché le plan de Dieu pour notre vie, ou même si on a pris une mauvaise sortie, puis qu'on a passé complètement à côté d'une fenêtre d'opportunité que le Seigneur nous avait donnée, puis que cette fenêtre-là, des fois, est partie pour toujours, parce qu'on a passé à côté, même si on a fait ça, il n'est jamais trop tard pour commencer à rechercher sa volonté puis sa direction pour notre vie. Puis, parce que, comme Joël avait donné l'exemple, comme un GPS, même si on est sorti, mettons, de l'autoroute, on a pris une mauvaise sortie, si on demande à notre GPS ou à notre application, maintenant, sur nos téléphones, de nous ramener sur l'autoroute, il va nous trouver un moyen pour revenir sur l'autoroute quand même, si on lui demande. Mais c'est la même chose pour Dieu. Si on lui demande, il va toujours nous ouvrir une route pour qu'on revienne dans la parfaite volonté, dans sa parfaite volonté pour notre vie, dans son plan. Si on lui demande, puis si on obéit aux directions qu'il nous donne. Fait que ça, c'est super encourageant parce qu'il n'est jamais trop tard. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça continuer un petit peu sur le même sujet, mais d'un angle différent. Est-ce que vous avez déjà entendu la phrase ou l'expression « si Dieu le veut » ou « Dieu voulant » Ici au Québec, c'est Dieu voulant. On dirait qu'on entend ça beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous savez d'où elle vient, cette phrase-là? Hein? Paul? Non, c'est Jacques. Mais oui, c'est Jacques. On va tourner dans Jacques. Dans Jacques 4. Puis on va examiner cette phrase-là un petit peu. D'où elle vient, puis à quoi elle sert. Jacques 4, 13 à 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain ou un profit. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans votre présomption. Toute gloriole de ce genre est mauvaise. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Fait que plusieurs y ont lu ce passage-là. Puis, de la manière que ça a été procédé dans leur tête, c'est comme, OK, bien, on va continuer à faire nos plans, puis on va juste rajouter la phrase « si Dieu le veut ». Hein? On va continuer à tout faire nos plans, puis on fait juste ajouter cette phrase-là, « si Dieu le veut », à nos plans. Mais, puis là, bien, le résultat, c'est qu'on entend souvent chez les chrétiens la phrase « Dieu voulant » ou « si Dieu le veut » à toutes les sauces. On l'entend vraiment n'importe comment, utilisé de n'importe comment. Fait que, mettons, est-ce que tu viens à l'église demain? Dieu voulant. Dieu voulant. Si on analyse ça de plus près, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Hein? Est-ce que ça veut vraiment dire que peut-être que Dieu ne veut pas que tu viennes à ton assemblée locale? Pas vraiment. Je sais qu'exceptionnellement, Dieu peut nous diriger à faire autre chose un dimanche matin que de venir à ton assemblée locale, mais généralement, ça veut plutôt dire « ça va dépendre de comment je vais avoir dormi, ça va dépendre si j'ai le goût ou non de venir, ça dépend si ma voiture va partir, ça dépend si je vais être malade ou pas, ça dépend si je décide de faire autre chose ». Finalement, quand on regarde ça de plus près, ça dépend pas vraiment de si Dieu veut ou pas. Hein? Si tu regardes vraiment, t'analyses le Dieu voulant. Puis même si je comprends qu'il y a des imprévus là, dans la vie, puis il faut être sage dans ce qu'on fait, mais est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que tu tombes malade? Non. Faut-il même s'attendre à ce que ça aille mal? Tu sais, quand on dit Dieu voulant, on est comme presque en train de dire, ben peut-être que ça va aller mal, fait que je le sais pas. Tu sais, on est en train de faire presque de la place à ce que ça aille mal. Puis en passant, quand Jacques il dit, votre vie est juste une vapeur, vous devriez dire, si Dieu le veut, on va vivre, puis on va faire cela, ceci ou cela. Ça veut pas dire que peut-être que Dieu veut que tu meurs demain. Hein, c'est pas ça que ça veut dire, parce qu'il faut toujours interpréter la Bible par la Bible. Puis le psaume 91, 16, ça nous dit « Je le rassasirai de longs jours ». Et Proverbe 3, 16 nous dit, en parlant de la sagesse, que dans la droite de la sagesse est une longue vie. Donc, ce que Jacques dit ici, c'est pas « Si Dieu le veut, je vais vivre ». Ça veut dire que peut-être qu'il veut pas que je vive. C'est pas ça qu'il dit. Il dit que la bénédiction puis la protection de Dieu n'est pas dans nos propres plans, est dans le plan de Dieu pour notre vie. C'est ça que ça veut dire. Puis si on continue à analyser la phrase « Dieu voulant », est-ce que c'est de sa faute si ta voiture ne part pas un matin? Non, un dimanche matin. Et surtout, est-ce que ça dépend vraiment de lui si ça tente ou non de venir à l'église? Ou si tu décides de faire autre chose. Non. C'est fait que donc le Dieu voulant, dans le fond, pas vraiment si Dieu veut. Hein? C'est plus si nous, on veut. Ça dépend pas vraiment de Dieu voulant. Mais Jacques voulait vraiment dire quelque chose dans ce passage-là. Hein? Le « si Dieu le veut » est important, mais il faut qu'on le mette dans le contexte. Fait qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire, ce passage-là? Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ce que Jacques, ici, il nous invite à faire, c'est d'entrer dans la prière de consécration. Puis on va examiner un petit peu c'est quoi la prière de consécration. Parce que ici, dans le texte qu'on vient juste de lire, les gens, ils faisaient des projets. Puis ils déclaraient des confessions positives sur leurs projets. Tu es en train de dire, bien, on va y aller, on va faire des affaires, on va faire du profit, parce que la Bible a dit, tout le travail de mes mains est béni. Hein? Ils sont en train de faire des bonnes confessions. Mais le verset 17 dit qu'ils sont en fait dans la présomption. C'est pas de la vraie foi. Donc, pourquoi est-ce que c'est de la présomption? C'est parce que c'était leur projet, pas ceux de Dieu. Puis la véritable bénédiction de Dieu, c'est dans sa parfaite volonté ou à l'intérieur de la sphère de sa volonté. Proverbe 19:21, je l'ai pris dans la Bible Osterval. Ça nous dit, « Il y a des pensées en grand nombre dans le cœur de l'homme, mais le conseil de l'Éternel est immuable. » Fait que le conseil ou la volonté de Dieu est immuable ou inébranlable, et c'est là qu'est la véritable bénédiction. C'est notre choix d'y entrer complètement, partiellement, ou pas du tout. C'est notre choix. Et dans Jacques, la façon qui nous est indiquée pour y entrer complètement dans la volonté de Dieu, c'est par la prière de consécration. Puis on va aller voir une prière de consécration de notre plus grand exemple. C'est qui notre plus grand exemple? C'est Jésus. On va tourner dans Marc 14. Marc 14, au verset 32. On va commencer au verset 32. Et on se retrouve dans le jardin de Gethsémané. Ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Essayez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Restez ici et veillez. Puis il s'avança un peu, se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne-moi, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas été capable de veiller une heure. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. C'est quoi les mêmes paroles? « Non pas ma volonté, mais ta volonté, ce que tu veux. » Et ça, c'est la prière de consécration. La prière de consécration, c'est de soumettre notre volonté à celle de Dieu par la foi. Ça se peut qu'on connaisse, quand on fait la prière de consécration, ça se peut des fois qu'on connaisse déjà sa volonté. Jésus, là, il la connaissait, sa volonté. Ça se peut aussi que quand on fasse la prière de consécration, on ne connaisse pas encore sa volonté. On est en train d'avoir une décision à faire, puis là, on est devant lui en prière, puis là, on est en train de soumettre notre volonté à la sienne. Jésus, comme je viens juste de dire, il connaissait la volonté de Dieu ici, mais toute son âme. C'est quoi notre âme? C'est, entre autres, je ne pense pas que c'est, on peut tout dire c'est quoi, mais c'est le siège de notre volonté et de nos émotions, notre âme. Fait que toute son âme là, reculait devant ce qui s'en venait devant lui. Il savait que c'était la volonté de Dieu, Il est en train d'y demander, « Seigneur, y a-t-il un autre moyen que je peux? Je peux-tu éviter ça, s'il te plaît? » Et il savait que c'était ça qui s'en venait devant lui, puis il est en train, parce que toute son âme est angoissée par rapport à ce qui s'en vient, parce que c'était pas juste la souffrance à la croix, là, qui était pour vivre, c'était d'être séparé de Dieu. Il est un avec Dieu. Il est Dieu. C'est Dieu le Fils. Et là, pour la première fois, il prendrait le péché du monde entier. Il n'a jamais vécu ça. Il n'a jamais vécu le péché. Il était pour subir le jugement de Dieu en enfer pour nous. Donc, c'était beaucoup plus que de juste vivre la souffrance physique de la croix. C'était tout ça. Et là, il savait que ça s'en venait en avant. Et là, son âme, elle ne voulait pas vivre ça. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Prière de consécration. « Seigneur, pas ma volonté, la tienne. » Et là, il a soumis sa volonté à la volonté de son Père, par la foi. Alors que son âme, lui, ne voulait pas. Mais par la foi, il a dit « Oui, je le veux. » Et on voit comment importante est ce type de prière, parce que si on retourne dans le verset 38, ça dit « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Fait que quand on va soumettre notre volonté à sa volonté par la foi dans la prière de consécration, ça va nous permettre de ne pas entrer en tentation. Puis pour Jésus, cette prière-là lui a même permis de recevoir la force qu'il avait besoin pour accomplir le plan qui s'en venait en avant de lui. Si on voit dans un autre récit de ce même expérience-là, dans Luc 22, 43, ça dit que alors qu'il priait la prière de consécration, il y a un ange qui lui est apparu et qui le fortifiait. Alors, tu vois comment c'est important, cette prière-là, de soumettre notre volonté à sa volonté, même si ça ne nous tente pas, même si toutes nos inclinaisons naturelles font que non, mais si on dit oui, Seigneur, par la foi, on soumet notre volonté, qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur va nous fortifier. Amen. Puis, il a tellement été fortifié, Jésus, dans le jardin de Gethsémané par cet ange-là qui l'a fortifié, que lorsque Judas et la cohorte qui l'accompagnaient sont venus le chercher, la puissance de Dieu est sortie de Jésus. Vous allez voir dans le récit, même récit, dans Jean 18, on va commencer au verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, fait qu'on voit qui sait qu'est-ce qui s'en vient devant lui, Dieu l'a préparé. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Il leur dit, « C'est moi. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Et lorsque Jésus leur a dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Fait que juste quand que Jésus a dit, « C'est moi », il était tellement plein de puissance qu'eux autres, ils ont fait comme... ils sont tombés par terre sous la puissance du Saint-Esprit. Il avait été fortifié, là, vraiment. Fait qu'on voit la puissance de Dieu qui est sortie de lui. Comment? Après qu'il ait fait la prière de consécration. Important, hein? C'est la même chose avec nous. Quand on dit oui à Dieu par la foi, alors que même notre volonté a fait des free games, là, puis que notre volonté a fait comme non! Mais qu'on dit, oui Seigneur, pas ma volonté, la tienne, alors là, le Seigneur va nous fortifier. Puis dans Philippiens 2, 13, dans la Bible du Semeur, ça dit, « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet bienveillant. » Dieu, il a des projets bienveillants pour nous. Ce sont des projets bienveillants qu'il a pour nous. Et quand on dit oui et qu'on fait la prière de consécration, qu'on soumet notre volonté à la sienne, par la foi, qu'est-ce qui va arriver? Il va produire en nous vraiment le vouloir et aussi la puissance de faire ce qu'il nous demande de faire. Amen? Fait qu'on va revenir au chapitre 4 de Jacques, où est-ce qu'on a lu notre texte. Puis on va regarder ce qu'il nous dit un petit peu avant le texte concernant « Si Dieu le veut ». On va aller là au verset 2. Jacques 4, verset 2. Ça nous dit « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Souvent, on pense que ce texte biblique-là s'applique juste à des choses comme des choses terrestres ou des choses matérielles. Par exemple, « Wow, eux, ils ont une belle maison. » Ou « Wow, ils ont une belle voiture. Ils ont un beau balcon avec une piscine. » Moi, c'est ça, bon. que je veux présentement, un beau balcon avec une piscine. « Wow, eux! » Ils habitent dans un beau coin du pays. Wow, eux, ils ont une belle famille. Wow, lui, il a une belle femme. Ou wow, elle, elle a un beau mari. Ils ont une belle relation de couple. Wow, eux autres, ils ont une belle carrière. Eux autres, ils font assez d'argent puis ils ont la santé pour voyager. Toutes des choses qu'on peut envier, mais qu'on peut, par contre, demander à Dieu sans envier. Il ne faut pas envier, par contre, et mettre ça en premier dans notre... comme Dieu dans notre vie. Mais la Bible a dit qu'on peut le demander. Puis oui, ça s'applique à ça, à des choses comme ça. Mais parce que Dieu, il nous dit que dans 1 Timothée 6, 17, il nous dit qu'il nous donne tout avec abondance. Quand on met notre confiance en lui, il nous dit qu'il nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. On va dire juste... pour qu'on en prenne plaisir, que ça nous fasse plaisir. Fait que le Seigneur, quand on lui fait confiance, on peut lui demander. Fait que oui, ça s'applique à ce genre de choses. Mais je crois que ce verset-là s'applique aussi à ce que nous demandions, c'est quoi sa volonté pour nos vies. Souvent, on ne sait pas c'est quoi sa volonté pour nos vies parce qu'on ne prend même pas le temps d'y demander. Fait que ça dit « vous ne possédez pas » parce que vous ne demandez pas. Mais est-ce que ça peut s'appliquer aussi à sa volonté pour notre vie? Vous ne possédez pas la sagesse ou la connaissance de sa volonté parce que vous ne la demandez pas. C'est facile de juste assumer, hein? De juste assumer c'est quoi sa volonté. Par exemple, moi, en secondaire 4, je pensais que j'étais pour aller à l'école biblique pendant 3 années, puis après ça, je m'en allais dans le ministère à temps plein. J'assumais que c'était ça sa volonté. Après tout, je voulais le servir, hein? C'est quand même noble comme désir. Et j'assumais que c'était ça sa volonté. Mais je me souviens qu'un soir, Dieu, dans sa bonté envers moi, m'a interrompu alors que j'étais en train de chanter comme chantre. Je chantais... Ici, les chantres étaient là, dans le temps. J'avais peut-être 15 ans. C'était un soir. On avait encore plein de réunions le soir dans ce temps-là. Et je pense que c'était Denis qui dirigeait la louange. Et je me souviens, on était en train de chanter, j'étais chantre, et Dieu m'a interrompu. Dans mon cœur, il a dit, « Vas-y, si tu veux, à l'école biblique. » Comme ça. « Vas-y, si tu veux, à l'école biblique. » Là, je suis comme, « Seigneur, je veux y aller si tu veux que j'y aille. » Qu'est-ce que le Seigneur essayait de faire? Il essayait de m'amener à lui demander son avis. Hein? Je ne demandais pas trop, j'assumais que c'était ça, son plan. Et là, il me demandait à lui demander son avis. « Vous ne possédez pas. » parce que vous ne demandez pas. Et souvent, le Seigneur va nous parler de ce que nous lui présentons en prière. Et pourquoi? Parce que quand on lui demande, on lui donne accès. on lui donne la permission, on lui donne place dans cette sphère-là de notre vie. Et c'est correct de rechercher des informations sur Internet. C'est correct de faire nos petits tests de personnalité en éducation, choix carrière, parce que Dieu nous a donné une intelligence pour qu'on s'en serve. Hein? Mais par contre, on ne devrait pas être guidé seulement par notre intellect ou par nos émotions. Et tout le temps qu'on fait nos recherches, on devrait être en train de checker dans notre esprit, de regarder dans notre esprit, puis de dire, « Bien, Seigneur, c'est quoi t'en penses, toi? Qu'est-ce que toi t'en penses? » Puis de lui demander en même temps, c'est quoi, lui, la voix qui nous dirige? Et des fois, alors qu'on fait des recherches, là, il va y avoir comme une petite lumière verte. OK, ouais, non, OK, ça c'est bon. On s'en va dans cette direction-là. Vous me suivez? Une autre erreur qu'on fait souvent, c'est qu'une fois qu'on connaît la direction que Dieu veut qu'on prenne concernant quelque chose de précis, on assume la suite ou on remplit les espaces. Hein? En anglais, « fill in the blanks », tu sais, quand on a des examens, là, remplissez les espaces. Fait que là, le Seigneur il nous a donné, « OK, c'est par là qu'il faut que tu ailles. » Fait que là, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on remplit tous les espaces, nous-mêmes, sans lui demander son avis. Puis on fausse tête baissée, boop! Mais il y a plein d'autres choses après. OK, bon, on y va dans cette direction-là, mais tout le long qu'on fait nos pas, il faut qu'on demande aussi, est-ce que c'est le bon moment? Peut-être pas le bon moment. Il y a plein de personnes qui ont senti un appel dans leur vie et qui pensaient que c'était une direction qu'il fallait qu'ils prennent, puis ils sont partis, mais c'était la bonne direction pour leur vie, mais ils sont juste partis même trop vite. C'était pas le bon temps encore. C'est-tu le bon moment? Et je vous ai parlé, moi, que depuis que je suis adolescente, j'ai le désir de voyager. Puis je sais que c'est sa volonté. Puis je sais qu'à un moment donné, je vais voyager. Puis Joël aussi, il sait. Mais je vous ai aussi parlé qu'au début de cette année, j'ai commencé à faire des plans pour tu sais, faire un petit voyage avec ma famille. Puis pourtant, le Seigneur m'a montré que c'était pas le bon moment. Il y a un bon moment pour toute chose. Pourtant, je sais que c'est sa volonté en général. Mais, ben, pas le bon moment. Il y a aussi le comment appliquer sa volonté. Fait qu'il faut rien assumer. Demandons-lui. Assumons rien. Demandons-lui. Puis, je suis sûre, il y en a ici qui sont en train de suivre leur cours de conduite. Mélodie, Marie-Soleil aussi, je pense. Quand on conduit, même si on sait qu'on veut aller à Montréal, puis que là, on est sur l'autoroute 10 vers Montréal, ça veut dire qu'on est dans la bonne direction, si on est sur l'autoroute 10 vers Montréal, on fait quand même continuellement des micro-ajustements, quand même, dans notre conduite, pour rester dans le centre de la route. Hein? Et de la même manière, on doit constamment vérifier avec le Seigneur. Lui demander et faire les petits ajustements, même si on est dans la bonne direction. Seigneur, y a-t-il quelque chose qu'il faut que j'ajuste? Puis la première place, puis je vais vous donner une grande, grande, grande révélation, mais la première place qu'il faut faire nos ajustements, c'est dans notre manière de penser. C'est dans notre façon de penser. Romains 12, 2, et celui-là, je le sors souvent, ce verset-là, mais on y revient. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que vous avez compris qu'il y a un grand lien entre être renouvelé dans notre intelligence puis être capable de discerner c'est quoi la volonté de Dieu? Oui. Fait que plus on ajuste notre façon de penser en accord avec la parole de Dieu, mieux on va discerner c'est quoi la volonté de Dieu pour nos vies. Puis, ça commence tellement dans des choses simples. Comment est-ce que Dieu, il nous voit? Comment est-ce qu'on se voit, nous? Est-ce qu'on se voit comme Est-ce qu'on se voit comme des malades? Est-ce qu'on se voit comme des malades? Ça a l'air. Hein? Genre, des fois, je... Est-ce qu'on se voit malade? Pas comme des malades. Parce que... Est-ce qu'on se voit malade? Est-ce qu'on se voit tout seul? Ou est-ce qu'on se voit avec Dieu? Hein? C'est toutes des petites manières d'ajuster notre façon de penser. Il faut toujours que je fasse tout seul. Il faut toujours que je me débrouille tout seul dans la vie. Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu, ça? Ou je puis tout par celui qui me fortifie? Dieu me délaisse jamais. Je suis jamais tout seul. C'est des petits ajustements de manière de penser. Je me vois comme un pas capable. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur. Ah, ça ne marchera pas ce fois-ci. Puis le diable a essayé de nous dire des choses, mais non. Le Seigneur m'amène toujours dans la victoire. Il y a des versets comme ça qu'on peut prendre, puis il faut ajuster notre manière de penser. Puis ça, c'est la première place où est-ce qu'il faut qu'on fasse nos petits micro-ajustements. C'est en s'ajustant dans notre manière de penser. Ah, moi, j'entends jamais Dieu me parler. Non. Jésus nous dit, vous êtes sa brebis, et sa brebis entend sa voix. C'est toutes des manières d'ajuster notre manière de penser. Amen. On va continuer dans Jacques 4 au verset 3. Et là, je l'ai sorti dans la seconde 21. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et même si on demande à Dieu quelle est sa volonté, on peut mal demander, selon le verset qui est ici. Et là, je vais terminer en abordant deux façons qu'on a de mal demander. Est-ce qu'il y en a qui veulent marcher dans les bons plans de Dieu pour leur vie? Amen. Fait qu'on va regarder. Des fois, pour mieux comprendre ce qu'il faut faire, il faut regarder qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Hein? Ça nous aide à mieux comprendre. La première manière de mal demander, c'est, ça le dit dans Jacques 4, 3, c'est dans le but de satisfaire vos passions ou nos passions. Puis quand je pense à ce verset par rapport avec notre sujet qu'on a de ce matin, qui est de comprendre la volonté de Dieu pour notre vie, je pense à toutes les fois où est-ce qu'on va à Dieu dans la prière, mais que dans le fond, notre idée est déjà faite. Est-ce que vous avez... Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Tout le monde comprend, on est des êtres humains. Puis là, on va à Dieu, pas vraiment pour y demander si c'est sa volonté, on va devant Dieu pour avoir... son accord. Hein? Seigneur, es-tu d'accord avec ça? Puis en passant, ça ne sert à rien d'aller à Dieu dans la prière pour demander ce qu'il a déjà spécifiquement dit dans sa parole que ce n'était pas sa volonté. Genre, Seigneur, je peux-tu avoir la femme de mon meilleur ami? Ça ne sert à rien d'aller y demander ça. C'est déjà... Puis si le Saint-Esprit, il te dit, si tu entends, OK, c'est d'accord, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va jamais te dire quelque chose qui est en contraire avec la parole de Dieu. Fait que, c'est ça. Dans Exode, ça dit, Exode 20, 17, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et c'est la même chose pour les femmes. Hein? Seigneur, je peux-tu avoir l'homme marié avec qui je m'entends si bien? Même s'il est chrétien. Puis ça se passe hein, dans les églises, je m'excuse, mais ça se passe. On ne peut pas dire non plus, mais Dieu il est d'accord à ce que je m'auto-médicamente avec un joint une fois de temps en temps pour me relaxer. Dans 1 Pierre 5,8, ça dit, soyez sobre, soyez vigilant. Fait que c'est un petit peu en contradiction. Hein? Fait que ça, c'est des choses pour où ce que la volonté de Dieu est déjà claire dans sa parole. Mais il y a des fois où ce qu'on veut vraiment quelque chose qui n'est pas mal en soi. Hein, il y a des affaires qui sont pas mal en soi. Et on va pas vraiment voir Dieu pour lui demander ce qu'il en pense. On va le voir pour avoir son approbation. Puis, saviez-vous que Dieu va nous laisser avoir des choses qu'on veut vraiment? Si on veut vraiment aller dans une certaine direction puis qu'on veut pas vraiment savoir son avis, il va nous laisser y aller. Ça veut pas dire que c'est lui qui en est l'auteur. Puis ça veut pas dire que c'est sa volonté parfaite. Regardez chez les Israélites. Ils ont demandé un roi pour les gouverner. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Mais il leur en a donné un quand même. Si vous voyez dans 1 Samuel 8, 7, l'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, pour que je ne règne plus sur eux. » Alors, c'était clair que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il demande un roi, puis qu'il mette un roi. Pourtant, Dieu y a choisi quand même Saül de manière surnaturelle au début, puis après ça, David et tous les autres après. Mais est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu? Non. Il les a juste laissés faire ce qu'ils voulaient vraiment. Donc, la première manière de demander de pas la bonne manière, demander mal, c'est demander pour satisfaire nos passions ou demander juste avec notre idée déjà faite. On a déjà notre idée de faite, on ne demande pas vraiment pour savoir ce qu'il en pense vraiment, on y demande pour avoir son approbation. Ça, c'est la première mauvaise façon de demander. Et je veux juste vous donner une petite illustration. J'ai donné cette illustration-là à la jeunesse, pas avant-hier, mais l'autre d'avant. Puis je l'ai adapté pour les jeunes parce qu'eux autres, les stations FM et AM de radio, je ne savais pas s'ils savaient c'était quoi. Fait que j'ai mis une station, les réseaux 5G puis les réseaux Wi-Fi. j'ai mis ça comme ça, mais je vais vous donner une illustration que le pasteur Keith Moore donne souvent. Il dit, tout le monde ici sait c'est quoi les stations radio FM puis les stations AM, radio AM. Il dit, mettons que tu as réglé ta radio dans ta voiture sur le réseau AM, mais que la musique que tu veux écouter ou ce que tu veux écouter, c'est sur un poste FM. Tu vas-tu l'entendre? Non. Fait que là, tu as beau ben « Voyons, je vais monter le volume. » Qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste faire « plus fort. Tu sais, tu vas pas avoir tu vas pas recevoir les ondes FM parce que tu es réglé sur la station AM. Fait que là, si tu t'en vas dehors sur ton auto puis tu fais juste rallonger ton antenne, est-ce que tu vas capter plus? Non. Ta radio est sur le AM. Et là, si tu t'en vas avec ta voiture et que tu colles ton bumper sur la station FM avec ton auto, tu es vraiment proche, là. Est-ce que tu vas plus capter si tu es réglé sur la station AM? Non, tu ne vas pas l'avoir. Et il dit, le point de son illustration, c'est qu'on va capter la volonté de Dieu sur la bande FM, si on règle notre volonté à la sienne. Donc, si on veut entendre sa volonté, c'est là qu'on va être capable de recevoir la bonne station. Vous comprenez? Amen. Donc, réglons notre volonté, on la soumet à sa volonté, c'est là qu'on va être capable d'entendre. La deuxième manière et là, c'est un petit peu plus touché ce que je vais vous parler, mais je trouve quand même que c'est un point qui est important à aborder. Souvent, les gens, ils vont demander, « Seigneur, si c'est ta volonté, ouvre les portes. Si c'est pas ta volonté, ferme les portes. » Silence, hein? Qu'est-ce qu'il y a de mal à prier ça? Qu'est-ce qu'il y a de mal à prier ça? Est-ce que, avant que vous me lanciez des roches, là, je veux... avant que vous me lanciez des roches, je crois que Jésus ferme vraiment des portes et il rouvre vraiment les portes. La Bible dit dans Apocalypse 3:7, ça dit, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Donc, Jésus est vraiment celui qui ferme et qui rouvre des portes. Sauf que le danger dans cette prière, c'est de se fier seulement sur les circonstances pour déterminer la volonté de Dieu. C'est un petit peu le même principe que de mettre des toisons. Okay? Les toisons, vous savez qu'est-ce que je veux dire par les toisons? On dit, ben Seigneur, si c'est ta volonté, fais qu'il y ait trois autos rouges qui passent devant chez moi. Ça, c'est des toisons. Et c'est la même affaire quand on demande, Seigneur, si c'est ta volonté, ferme la porte. Si c'est pas ta volonté, ferme la porte, ou si c'est ta volonté, rouvre. Si c'est ta volonté, rouvre les portes. Je peux me mélanger. C'est la même chose. On est en train de mettre toute la responsabilité de nos choix sur Dieu. Et c'est là qui est dangereux avec ce genre de prière-là. Avez-vous remarqué que dans le jardin de Gethsémané, Jésus a dit « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. » Ça veut dire qu'il va y avoir des portes qui vont être ouvertes, qui ne sont pas nécessairement des portes que Dieu y a ouvertes. Ça va être des portes de tentatives d'hameçonnage, que je pourrais dire. Hein? Ça va être des portes de tentation. Des portes qui vont être en fait des pauvres alternatives au véritable plan de Dieu. Et c'est notre responsabilité de ne pas y entrer. Est-ce qu'il y a des portes, par exemple, une super de belle promotion au travail? Est-ce qu'il y a des portes qui pourraient être ouvertes une relation amoureuse? Est-ce que ça pourrait être une opportunité d'affaires qui s'ouvre devant nous? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas de Dieu, mais est-ce que toutes les portes qui s'ouvrent sont vraiment de Dieu? Et c'est là qu'il faut faire la différence quand on dit « Ah Seigneur, si c'est ta volonté, rouvre les portes. » Ah, ben ça doit être de Dieu. Il y a une porte ouverte. Alors qu'il faut demander au Saint-Esprit, « Seigneur, c'est-tu vraiment une bonne porte pour moi? Est-ce qu'il faut que j'y entre, oui ou non? » Amen. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Fait que c'est ça qu'il faut faire très, très attention parce qu'il y a des gens qui sont entrés en pensant que, « Ah, ben j'ai prié. Si c'est ta volonté, rouvre les portes. Si c'est pas ta volonté, ferme les portes. » Fait que là, ben, la porte est ouverte. Ça veut dire que c'est de Dieu. Et finalement, c'est une tentative d'hameçonnage. Il faut faire attention. Il faut toujours vérifier avec lui si c'est sa volonté. Est-ce que je dis que quand on prie en langue, Dieu n'est pas en train d'ouvrir des portes devant nous? Non, je ne dis pas ça. Quand on prie en langue, il y a plein de choses que le Seigneur a fait. Il a ouvert des portes devant nous. Il a fermé des portes. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas qui nous a évitées. Quand on intercède pour des personnes qui nous sont chères, Dieu, il rouvre des portes puis il ferme des portes. Mais ça ne nous enlève pas notre responsabilité de vérifier si c'est vraiment les portes que lui a ouvertes. Et je peux juste vous dire, moi j'ai donné un exemple d'une porte qui s'est ouverte dans ma vie, qui s'est ouverte dans ma vie. Alors, voilà 5 ans, moi je pensais à déménager. Je pensais à m'en aller à Sherbrooke. Et parce que comme infirmière, le CIUS de l'Estrie, c'est très... Je faisais partie, je n'aurais pas perdu aucune ancienneté, j'aurais pu, tu sais, vraiment changer de place. Puis Joël, lui, dans son cœur, il y avait, non, on reste ici. On reste ici. Puis moi, ça ne faisait pas trop mon affaire. Et Petite parenthèse, pour les célibataires, pas pour les personnes mariées, pour les célibataires, c'est très important d'avoir une personne qui recherche le plan de Dieu dans, quand vous êtes marié. Je veux dire, pour vous marier, recherchez une personne qui recherche le plan de Dieu. Et je suis très reconnaissante d'avoir un mari qui recherche le plan de Dieu. Ça m'a beaucoup aidée dans ma vie. Pour les personnes mariées, Dieu y honore le mariage. Puis si jamais la personne avec qui vous êtes marié ne recherche pas le plan de Dieu, si vous recherchez le plan de Dieu, Dieu va bénir votre mariage par votre entremise. Mais j'ai parlé aux célibataires. Recherchez quelqu'un qui recherche le plan de Dieu. Et bon, ça c'est ma parenthèse. Alors c'est ça, je disais que lui, c'est, dans son cœur, il fallait qu'on reste ici. Et à ce moment-là, j'ai obtenu un poste en clinique externe. Et c'est un poste pour une infirmière qui n'a pas son bac, qui n'est pas bachelière. C'est un poste qui est vraiment très, très rare. J'avais plus de fin de semaine. Et pour moi, c'est vraiment une porte qui s'est ouverte, qui m'a beaucoup stabilisée. Dans le sens qu'on avait déjà la direction divine, mais le fait que Dieu m'ait ouvert une porte pour que je puisse travailler juste deux semaines, puis pas la fin de semaine, pour moi, c'était une confirmation. OK, Jessie, tu fais vraiment la bonne chose. T'es dans ça m'a beaucoup, beaucoup stabilisée. Fait que je ne dis pas que le Seigneur ne rouvre pas des portes, puis qu'il ne va pas en fermer non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours demander au Seigneur, est-ce que c'est toi qui rouvre la porte? Puis il y a des fois même des portes qui vont être fermées, que c'est le diable qui ferme la porte, qu'il est en train de dire, mais non, tu ne l'auras pas, ta provision, non, tu ne l'auras pas, ta guérison. Puis là, le Seigneur va dire, hey, parle-y, dis-y de s'ouvrir à cette porte-là. Fait qu'il faut, c'est pas parce qu'une porte est fermée que c'est nécessairement Dieu qui l'a fermée aussi. Fait que vous comprenez la différence de ce que je veux dire, qu'il faut faire attention quand on dit, Seigneur, si c'est ta volonté, rouvre une porte, si c'est pas ta volonté, ferme une porte. Fait qu'en conclusion, Dieu voulant, ou si Dieu le veut, vous voyez que ce n'est pas une phrase à dire comme ça, à la légère. Hein? Ce n'est pas non plus une manière de dire, ben, si ça arrive, ça veut dire que c'était la volonté de Dieu, puis si ça n'arrive pas, ça veut dire que ce n'était pas la volonté de Dieu. Non, Dieu il recherche des gens dont le cœur est entier pour lui. Des gens qui vont lui soumettre leur volonté. Parce qu'ils ont confiance en lui. Ils ont confiance que ses plans sont bons pour eux. Amen. C'est des gens qui vont lui demander son avis d'une façon véritable. Pas juste pour avoir son approbation, puis qui nous laisse faire qu'est-ce qu'on veut, qui bénissent nos propres chemins. Puis c'est pas non plus des gens qui vont juste demander pour prendre la voie facile, en lui mettant sur lui toute la responsabilité de nos choix. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si on se trompe, puis on s'est déjà trompé, hein, tout le monde s'est déjà trompé, moi puis Joël, on s'est déjà trompé, plein de fois, on a fait des bons coups par exemple, mais même si on s'est trompé, Dieu regarde au cœur, Dieu regarde au cœur. Prenons le peuple d'Israël, tantôt je vous ai dit qu'ils ont demandé un roi, que ce n'était pas la parfaite volonté de Dieu. Pourtant, Dieu a quand même fait venir le Messie par la descendance d'un roi, le roi David. Pourquoi? Parce que c'était un homme selon son cœur. Donc Dieu, il recherche, il regarde au cœur, vraiment. Dans Proverbes 3:5, ça nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence et reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Fait qu'alors qu'on le reconnaît dans toutes nos voies, Seigneur, c'est-tu ça, et qu'on l'obéit en marchant dans sa volonté pour nos vies, c'est là qui aplanit nos sentiers. Est-ce que ça sonne comme des portes ouvertes, ça? Oui, c'est des portes ouvertes. Puis c'est là qui va aussi nous éviter plein de pièges. Que si on n'avait pas reconnu, OK, ça c'est la bonne personne, on n'avait pas marché dans cette voie-là, mais on serait tombé dans un piège. Fait que si vous lisez le Proverbe 3, qui est relié à justement le reconnaître puis avoir un cœur qui est entier pour lui, vous allez voir dans le Proverbe 3 que rattaché à ça, c'est la bénédiction, la provision, la santé, la paix et la protection. Amen. Et je vous invite à vous lever. On va prier ensemble. Est-ce que vous voulez vraiment le plan de Dieu pour votre vie? Amen. On va prier pour justement faire cette prière de consécration, cette prière de mettre notre volonté, de soumettre notre volonté à la sienne. Seigneur, comme Jésus, notre plus grand exemple, on veut te dire qu'on te recherche toi premièrement. On recherche premièrement ton royaume. Puis on recherche ce bon plan que tu as préparé pour nous, Seigneur. Ce bon plan que tu as même fait préparer pour nous, même avant la fondation du monde, pour qu'on puisse marcher dedans. Et Seigneur, on veut vraiment venir à toi, soumettre notre volonté à la tienne, te dire oui par la foi, même si nos inclinaisons naturelles ou même si notre volonté ou nos émotions des fois vont dire « Je ne suis pas sûre, Seigneur, ce n'est pas ce que je veux vraiment. » Mais on te dit oui, Seigneur, par la foi, on soumet notre volonté à la tienne, on se consacre à toi. Et Seigneur, alors qu'on le fait, on te remercie parce que tu nous fortifies et que tu nous donnes le vouloir et le faire selon ton bon plan bienfaisant. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Bon dimanche!